L'innovation ne suit pas toujours une ligne droite. Et les pionniers sont souvent ceux qui essuient les tempêtes avant que d'autres ne suivent des chemins qu'ils ont ouverts. Milan Vukovic, cofondateur de MV Santé, a incarné cet esprit d'avant-garde en lançant l'une des premières structures dédiées à la chirurgie ambulatoire en Suisse. À cette époque, où la pression pour transférer les soins stationnaires vers l'ambulatoire n'était pas encore suffisamment forte, il a voulu anticiper un mouvement qui est aujourd'hui devenu une évidence. MV Santé n'a pas pu aller au bout de son chemin et a dû déposer le bilan. Certains y verront un échec, d'autres une marque du véritable entrepreneur, celui qui prend des risques, qui bouscule les certitudes, qui dérange ceux qui préfèrent rester ancrés dans le statu quo. Si des erreurs ont été commises, elles sont celles de tout précurseur. Tester des modèles encore incompris, défier des intérêts établis et avancer sans garantie de succès immédiat. Aujourd'hui, alors que de nouvelles structures se prévalent d'inventer et de révolutionner la chirurgie ambulatoire, il est important de rendre hommage à ceux qui ont réellement été les premiers à croire en ce modèle, l'ont expérimenté et développé. Avec le docteur Vincent Mertz, cofondateur de MV Santé, nous allons retracer cette aventure, comprendre comment elle est née, quels ont été les obstacles et en quoi cette initiative a façonné le paysage actuel de la chirurgie ambulatoire en Suisse. Ce podcast est là pour rappeler que l'innovation est avant tout une affaire de vision et de courage, même lorsque la reconnaissance vient tardivement.
Je suis avant tout un médecin. J'ai fait une formation d'urologue à l'hôpital de Lille à Berne. Et puis, à la fin de ma formation, je suis rentré sur Lausanne et je me suis installé en cabinet privé associé à un de mes amis, le docteur Motta. Et nous avons débuté notre pratique dans les années à partir de 1996. Nous étions au début de notre carrière d'indépendant et je suis contacté par quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, Milan Vukovic.
Et que vous connaissiez déjà, donc?
Que je connaissais déjà,
par
oui.
Par quel biais?
Parce qu'il était membre du tennis club où je pratiquais le tennis au Lausanne Sport. Là, j'étais tout jeune, j'avais 14-15 ans, et lui, comme il était mon aîné de 6 ans, il jouait avec ses copains d'études, parce qu'il était encore aux études à ce moment-là, il faisait des études de chimie.
Et donc, il vous contacte, mais cette fois, pas pour frapper une balle.
Non, pas pour frapper une balle, mais pour me proposer de discuter de la chirurgie qu'on appelait ambulatoire à l'époque, qui était, si vous voulez, en fait, un prémisse de ce que nous allions créer. À l'époque, si vous voulez, la chirurgie ambulatoire n'existait pas vraiment.
Et on parle de quelle époque, là?
C'était les années 90. On avait un mode qui était déjà assez bien. C'était ce qu'on appelait l'hospitalisation d'un jour, c'est-à-dire que le patient, il restait une nuit. Mais cela ne permettait pas encore de l'ambulatoriser complètement. Le patient était hospitalisé quand même. Et ça, si vous voulez, du point de vue des coûts, c'était quand même trop important par rapport à la rémunération qu'on avait à l'époque des ce qu'on appelle nous des HDJ. Et les cliniques n'étaient pas très enclines à effectuer ces interventions parce qu'en fait, ça ne leur rapportait pas insuffisamment.
Et comment était-il arrivé lui-même dans ce domaine?
Alors, dans le domaine de la santé, il faut savoir que Milan sortait droit de l'industrie de l'acier. Il avait contribué à la rénovation du laminoir de Chipis. Il avait travaillé longtemps pour Alcoa. Et puis, à un moment donné, il a quitté cette industrie pour aller dans d'autres industries comme celle de la papeterie. Il a été le directeur de la papeterie de Versoix avant qu'elle ne doive fermer pour des raisons économiques. Et puis après, il se trouvait en fait sans emploi et il est devenu un consultant. Et un de ses amis, M. Kuntz, lui a proposé de faire, l'a présenté à un groupe de cliniques privées suédoises, le groupe Capio, où il a effectué pour ce groupe une étude du système de santé en Suisse.
Et donc, on parle d'il y a 30 ans.
Voilà, exactement.
Et donc, à ce moment-là, déjà, on avait les prémices de ce qui deviendrait l'ambulatoire.
Exactement. Il a constaté en fait qu'il manquait une pièce dans le puzzle du système de santé suisse entre le cabinet médical du chirurgien et l'hôpital. On savait qu'à l'époque, la chirurgie ambulatoire était quelque chose que les hôpitaux n'aimaient pas parce que il n'y avait aucune rentabilité là derrière. À l'époque, le système de rémunération des hôpitaux était lié à la journée d'hospitalisation. Donc, plus le patient était hospitalisé, plus l'hôpital gagnait de l'argent.
Ce qui n'a pas beaucoup évolué depuis.
Oui, ça a quand même pas mal évolué dans la mesure où on a un système c'est forfait par cas, c'est-à-dire les DRG, qui régule quand même, qui a entraîné quand même une diminution des séjours parce qu'il fallait accumuler plus de patients par unité de temps pour obtenir une rémunération correcte. L'ambulatoire là derrière était totalement laissé pour compte et tous les hôpitaux, aussi bien que les cliniques, détestaient la chirurgie ambulatoire parce qu'elle ne rapportait rien. Ensuite, comment on s'est rencontrés, comment on a pu continuer à évoluer, c'est que l'apparition du nouveau tarif en 2004 pour l'ambulatoire qui s'appelait le TARMED.
Donc 14 ans plus tard.
14
Et
ans.
qu'est-ce que vous aviez fait pendant ces 14 ans? Vous aviez joué au tennis?
Alors, moi, j'étais en formation, si vous voulez, et puis quand je me suis installé, j'ai participé dans le cadre de la Société suisse d'urologie à l'élaboration de ce tarif. J'étais dans la commission pour l'urologie, pour le tarif TARMED. Et là, je me suis rendu compte que ce que je voyais ne permettait pas à des infrastructures aussi lourdes que les hôpitaux de pouvoir assumer cette chirurgie ambulatoire. Il fallait trouver un moyen d'avoir des structures suffisamment petites pour pouvoir assumer cette chirurgie qui devait à terme se développer, parce que dans le monde entier, notamment dans le monde anglo-saxon, la chirurgie ambulatoire était presque, j'entends, était majoritaire par rapport à l'hospitalisation. Quand je prends l'Angleterre ou bien les États-Unis, et par exemple l'Australie, c'était presque la majorité des interventions, plus de 70% se faisaient en ambulatoire, alors que en Europe, en Suisse, on était au balbutiement.
Et donc, contrairement à de nombreuses institutions qui sont plutôt prompts à réclamer une revalorisation de l'acte, vous vous êtes dit, je vais travailler sur les coûts. Je vais
Exactement.
Essayer de dessiner une structure qui me permettra,
Exactement,
dans
parce
le cas des coûts imposés.
on voyait bien qu'il n'y avait aucune chance de faire la révolution. Le TARMED était là. On avait cette notion de neutralité des coûts à l'introduction du TARMED, donc il ne fallait pas que ça coûte plus cher que ce qui précédait. Donc il fallait s'organiser pour pouvoir, si vous voulez, effectuer cette chirurgie dans de bonnes conditions avec des coûts réduits.
Et donc, on se retrouve en 2004. Et qu'est-ce que vous décidez?
Alors, avant 2004, il s'est passé quand même quelque chose de très important, c'est que nous avons monitoré plus de 1 000 patients dans une clinique lausannoise à la clinique de Montchoisy, précisément, où nous avons pu, avec l'aide de son directeur, M. Fallot, monitorer ces 1 000 cas de chirurgie ambulatoire et d'évaluer les ressources qu'il était nécessaire pour pratiquer cette chirurgie.
Donc c'était en quelque sorte une étude de marché pour
Voilà.
voir s'il y avait un
Étude de
marché
marché
et un
pour
volume.
voir si c'était faisable. Puis ensuite, il fallait l'adapter avec le nouveau tarif qui arrivait en 2004 de TARMED.
Et quelles ont été les conclusions?
Alors, nous avons, je me souviendrai toujours de ce moment-là, nous étions sur une terrasse à Crans-Montana et on s'était dit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? On avait les chiffres, on prend le risque, on prend pas le risque. Puis on s'est dit, ben, On y va. On y va parce que on pensait que c'était la bonne direction à faire. Et on s'est mis à recruter les médecins.
Et quand vous dites « on », c'est vous-même,
principalement, Emilane. C'est moi qui ai été un des recruteurs parce que je connaissais le monde médical de Lausanne. La majorité des médecins que nous avons recrutés, ce sont des collègues de volée, on va dire, vu que j'ai fait mes études à Lausanne. Et nous avons recruté environ, pour démarrer le premier centre de Rhodanie, 50 médecins, dont près d'un tiers d'ophtalmologie, parce que l'ophtalmologie était vraiment extrêmement prétéritée par le tarif TARMED, les honoraires médicaux. Imaginez que ça baissait de 3000 francs la cataracte à 300 francs. Donc, vous voyez, le gap était énorme et les ophtalmologues cherchaient une solution. Et c'est par hasard que j'ai rencontré le docteur Auert, qui était à l'époque, je crois, le président des ophtalmologues romands. Nous étions les deux au guichet le 24 décembre 2003 à l'UBS pour retirer de l'argent pour les cadeaux de Noël. Et nous avons discuté ça. Et l'ophtalmologie a démarré ce jour-là, collaboration avec tous les ophtalmologues de Lausanne.
Alors, on reviendra peut-être sur les différentes spécialités qui étaient pratiquées. Donc, vous êtes en 2004. Oui. Vous êtes sur une terrasse à Crans-Montana et vous décidez quoi ?
On décide...
De faire un investissement ?
Ouais,
pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avec la clinique de Montchoisy ?
On décide de monter un centre de chirurgie ambulatoire.
Et pourquoi pas l'avoir fait avec la clinique ?
Alors, nous étions convaincus qu'il fallait séparer la chirurgie ambulatoire de la chirurgie hospitalière. Parce que il y a une chose qui était très importante et que j'ai constatée au cours de mes années de formation et puis de ma pratique dans les hôpitaux et dans les cliniques, c'est que il faut parler de la culture du personnel, la culture d'entreprise. Et vous devez, si vous voulez être efficient, être dans un centre de chirurgie ambulatoire, vous devez amener votre personnel à raisonner comme vous l'entendez pour que on puisse pratiquer cette chirurgie de façon efficiente. Dans le monde hospitalier, le temps ne compte pas. Le TARMED est un tarif au temps. Donc, vous pouvez, si vous voulez rentrer dans vos frais, entre guillemets, vous devez être extrêmement efficient avec le TARMED, c'est-à-dire de pratiquer. On avait calculé qu'il fallait, pour que on rentabilise les salles d'opération, par salle d'opération, il fallait compter par jour 7 à 8 interventions chirurgicales, d'une durée moyenne d'une heure, on va dire. Et il fallait vraiment avoir ce volume-là pour, si vous voulez, sortir des chiffres rouges, c'est-à-dire que pour être au point mort, pour être profitable, c'était le minimum.
Et quel était le rôle de Milan ?
Alors Milan,
de l'aluminium.
En fait, c'est en fait une rencontre entre quelqu'un qui a une formation médicale, c'est-à-dire qu'il est dans le monde du vivant, et quelqu'un dans le monde de l'inerte, où il a, lui, connu la révolution industrielle de l'aluminium. Moi, je ne connaissais pas, mais je savais qu'il fallait que les choses changent, mais j'avais cette formation, cette culture de la biologie. Et si vous voulez, ce qui est arrivé, c'est que on s'est très bien entendu, parce que lui, il a amené son côté industrialisation. Et moi,
donc optimisation, efficience, contrôle des coûts.
Exactement, contrôle des coûts. Et moi, j'étais là pour dire c'est possible, c'est pas possible avec le corps humain, on va dire. Mais ça m'a aussi permis, moi, d'évoluer dans la mesure où des dogmes qui étaient qui étaient inscrits ont été quand même assez bousculés avec ça.
Par exemple.
Mais par exemple, pourquoi fallait-il dénuder complètement un patient, le mettre en pyjama, le mettre sur un chariot, le pousser, le transporter par quelqu'un jusque dans la salle d'opération pour lui faire une chirurgie de la main, alors qu'il aurait pu marcher, rester habillé, on aurait pu gagner du temps sans autre. Et lui, avec le temps, il a réussi à faire modifier des choses qui étaient admises pour acquises au personnel infirmier, au personnel de bloc et aux médecins.
Et ça a été possible?
Ça a été possible, oui, mais ça a été difficile.
Parce qu'en fait, il y avait une résistance, il y avait surtout une convenance.
C'est-à-dire qu'on révolutionnait un tout petit peu la façon de faire les choses. Pour pouvoir imaginer que dans les hôpitaux et dans les cliniques, entre deux interventions chirurgicales, on attend à peu près 45 minutes. À rien faire. C'est-à-dire que le médecin, il est là, il attend que le patient arrive et que les choses se fassent. On est arrivé à diminuer ce temps à 10 minutes. Uniquement en changeant les systèmes d'organisation, en rendant les flux beaucoup plus fluides, si je veux dire comme ça. Ouais.
Et cela passe à la fois par de la technique, à la fois par de la gestion opérationnelle, mais aussi par un changement de mentalité.
Oui.
Lequel était le plus complexe?
Le changement de mentalité, clairement. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ok, on accélère, on modifie les flux, on monite les patients, on leur met des bracelets RFID. Si vous n'avez pas le personnel qui comprend et qui va dans votre direction, c'est impossible de faire ça. Je pense que c'est fondamental d'avoir tout le personnel acquis à ce que vous proposez, aux modifications que vous avez amenées dans le circuit du patient.
Et d'où l'importance de séparer la partie stationnaire hospitalière.
Exactement.
D'un centre de chirurgie ambulatoire.
Oui, parce que c'est une culture d'entreprise différente quand vous êtes à l'hôpital que quand vous êtes dans un centre de chirurgie ambulatoire. C'est totalement différent. Ça a toujours été un problème. Je me souviens, lorsque j'étais chef de clinique à Berne, on était en train de monter une unité d'ambulatoire, mais ça ne fonctionnait pas parce que c'était les mêmes personnes qui étaient aux étages où les patients étaient hospitalisés, qui travaillaient dans l'unité d'ambulatoire. Et vous avez une espèce d'inertie parce que le temps ne compte pas à l'hôpital.
Donc, mais comment vous faites alors dans ce cas avec des médecins qui pourraient à la fois avoir une pratique hospitalière et une pratique privée?
Alors, les médecins ont toujours été acquis à la cause de ne pas attendre entre deux interventions chirurgicales.
Même au niveau hospitalier?
Même au niveau hospitalier.
Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis la pression pour qu'en fait ils transforment le...
C'est impossible.
Et pourquoi?
Parce que le pouvoir, si vous voulez, organisationnel... de l'hôpital est fait par les infirmiers, on va dire. L'organisation d'un hôpital est faite d'une partie médicale et d'une partie des infirmières. Le monde infirmier contrôle en fait le 90% du fonctionnement de l'hôpital. Il est clair que les traitements sont faits par les médecins, mais tout ce qui est organisation, infirmière, soins, ce qui est très important, hein, ce qui est fondamental, bloc opératoire, a toujours été fait par les infirmiers. Et eux, ils ont une culture très différente, parce que les écoles sont différentes d'une part, elles sont souvent très axées sur les soins, passer du temps avec les patients, ce qui est très très bien, mais on oublie d'un côté que il y a des ressources financières qu'il faut gérer de façon optimale dans le contexte de santé actuel et de toute façon, et que la notion d'efficience est en contradiction avec la culture des infirmières.
Mais est-ce que c'est pas là que le changement doit intervenir? On connaît les problématiques aujourd'hui par rapport au financement de systèmes de santé. Est-ce que ce n'est pas vraiment cette prise de conscience qui est nécessaire?
Oui, elle est nécessaire, oui, clairement. Oui.
Et vous-même, vous êtes parti du principe que vous n'alliez pas changer ces systèmes et qu'il valait mieux et qu'il était plus simple d'imposer un autre rythme, une autre culture de la prise en charge du patient, mais dans des centres séparés.
Oui, exactement, parce que vous pouvez là prendre votre personnel et puis, avec des formations, vous arrivez à les rendre acquis à votre cause et ils comprennent. Et je pense que c'est très bien parce que aussi le personnel, quand ils voient que les choses avancent et se font de façon correcte et efficiente, ils réalisent que le travail si on leur permet de travailler convenablement dans de bonnes conditions, mais en respectant, j'allais dire, un horaire, entre guillemets, en n'ayant pas de perte de temps, le personnel est content.
Et comment a perçu ce changement le patient?
Il ne s'en est pas aperçu, en fait. Les patients, en général, quand un patient entre à l'hôpital, il est conscient qu'il doit attendre et les choses vont tranquillement et qu'il n'a pas... Il met, si vous voulez, le compteur sur off et il se laisse faire. Mais par contre, dans nos centres, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une grande satisfaction dans la mesure où le patient, il entrait, il était pris en charge immédiatement, il n'avait pas d'attente, il y avait, si vous voulez, un flux, un passage, si vous voulez, dans le bloc opératoire assez fluide, il se sentait pris en charge rapidement et efficacement. Donc ça fait que le taux de satisfaction des patients était très élevé.
Je reviens toujours à cette année charnière 2004. Vous,
oui.
Sur votre terrasse à Montana, vous réalisez que vous voulez changer ce paradigme, que vous allez lancer votre clinique.
Oui.
Il faut la financer.
Alors oui, alors le financement, ça a été assez compliqué parce qu'on est parti de scratch. On a eu un capital action de 100 000 francs et nous avons, pour construire le premier centre Redani, nous avions demandé à 50 médecins de nous aider financièrement et de devenir actionnaires. Ouais. Mais c'était un financement qui était très modeste. Puis ensuite, nous avons été dans les banques. Et à plusieurs reprises, on a eu des échecs, c'est-à-dire que les banquiers étaient très réticents, notamment les banques cantonales. Et c'est une grande banque, la grande banque suisse, qui nous a suivis et qui nous a financés pour le premier centre.
Et quels ont été les arguments?
Alors, les arguments ont été principalement... ce qui nous a permis le financement, c'est d'avoir 50 médecins impliqués et qui ont donné le nombre d'interventions qu'ils pensaient pouvoir faire. Et ça nous a donné un chiffre. Et ce chiffre, le nombre d'interventions par année, permettait d'avoir une rentabilité au vu du business plan qu'on avait fait.
Et donc, vous aviez un business plan solide, vous aviez,
oui,
des acteurs qui étaient connus,
oui,
et donc vous aviez la crédibilité pour faire en sorte que des crédits vous soient confiés.
Oui. Oui.
Et comment ça s'est passé pour la suite?
Alors,
en 2004, vous êtes
on
sur
est,
votre...
On est à 2004, si vous voulez...
Combien de temps vous avez pris pour mettre en place votre...
Alors, ça a été très rapide parce que, en fait, je me souviens toujours, Milan, il passe à côté à Redani d'un chantier... Puis il s'arrête, il va voir, il y a une surface de 550 mètres carrés vide. Et il me dit, c'est là qu'on va faire ça. Puis je vais voir, et puis je dis, OK, on construit ça. Et nous avons construit, si vous voulez, ce centre en 3 mois.
Ça vous paraît encore réaliste aujourd'hui? Parce que je vois des grands projets dans la chirurgie ambulatoire, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'ils y travaillent et que ça prendra encore 2 ans pour les mettre en place.
Alors,
pourquoi?
Ça dépend comment.
C'est le privé par rapport au public.
Oui, je pense. Ouais, c'est. On s'y a attaqué. On a travaillé là, je dirais, surtout Milan, hein, parce que moi, en parallèle, j'avais mes patients à soigner. Et lui, il a quasiment dormi sur place. Et puis, on a eu assez de chance, entre guillemets, c'est que l'hôpital de Lavaux fermait. Et on a pu acheter à bon compte beaucoup de matériel très rapidement.
Donc, il était devenu immédiatement disponible.
Exactement, ouais. Et les murs, c'était assez facile à construire, c'est pas très compliqué, hein. Donc c'était une surface brute. Et puis on a réussi à faire ça très rapidement.
Donc 3 mois plus tard, vous appuyez sur le bouton, le premier patient arrive.
Voilà.
Et comment ça se passe ?
Le premier patient a été opéré par un de mes amis chirurgiens. Ça s'est hyper bien passé. On avait pu recruter suffisamment de personnel infirmier. Et puis on avait un médecin anesthésiste qui était à disposition, donc on a
qui était votre employé,
qui était notre employé, et puis on a démarré comme ça.
Et quelles étaient les spécialités sur lesquelles vous vouliez vous concentrer?
Alors on avait majoritairement l'ophtalmologie, qui était un poids lourd dans notre business plan. Ensuite il y a eu différentes spécialités comme la chirurgie de la main, qui était déjà, si vous voulez, une chirurgie qui était ambulatorisée et que les caisses maladies dont les caisses maladies refusaient l'hospitalisation, à juste titre d'ailleurs. Et puis ces deux spécialités majoritaires, après on a eu de la gynécologie, de l'ORL, la chirurgie générale, un tout petit peu d'urologie, et je crois que l'orthopédie un petit peu moins, parce que c'est beaucoup plus, je dirais, au tout début, c'était trop compliqué d'avoir de l'orthopédie, parce qu'il manquait pas mal de matériel pour pouvoir pratiquer. Donc, tout ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Mais au début, on a principalement fait de l'ophtalmo, la chirurgie de la main, et puis un tout petit peu de gynéco, de chirurgie générale.
Pendant combien de temps vous avez opéré simplement cette clinique? Et à quel moment est-ce que vous avez décidé d'étendre votre réseau à d'autres cliniques?
En fait, on s'est lancé dans 2 cliniques en parallèle. Parce que, comme la chirurgie ambulatoire était payée au lance-pierre par le TARMED, la clinique générale de Boulieu voulait se séparer de la clinique Champel, qui était une des premières cliniques soi-disant d'ambulatoire, mais en fait, c'était des courts séjours.
Et donc, il y avait des lits.
Et là, il y avait des lits. Donc, comme ils voulaient se séparer, ils voulaient vraiment la fermer, Milan a eu vent de cela par un de mes confrères de Genève, et nous avons pu, dans la foulée, au printemps 2004, reprendre la clinique de Genève, de Champel.
Et donc, vous étiez cette fois à la fois actif sur Lausanne et sur Genève.
Voilà, exactement, ouais. Et ça, très rapidement, c'était quand même un petit peu tendu, parce que quand vous faites une facture TARMED, alors que le tarif vient d'arriver, les assureurs ne vous connaissant pas, parce que vous êtes un nouvel acteur, même si vous avez des autorisations et tout, on a été pris longtemps en otage par les assureurs.
C'est-à-dire, et quand vous dites pris en otage, c'est-à-dire les remboursements.
Ils retiennent les factures.
D'accord.
Ils font un peu la grève du zèle, c'est-à-dire ils les contrôlent sur contrôle pour être sûr que c'est vraiment juste comme on facture.
Et donc vous aviez un problème de cash.
Et oui. Et on a été sauvés par une filiale de l'UBS qui nous a permis de faire du factoring. Et je me souviens, à l'été 2004, c'était très très tendu. Et grâce à cette société de factoring, on a pu passer le cap.
Et payer les salaires.
Et payer les salaires, ouais.
Là,
on a toujours pu payer les salaires.
Vous avez 2 cliniques, une sur Genève, une sur Lausanne, et ensuite arrive le projet du CHUV.
Non, pas arrive encore, non, non. La troisième clinique en Valais, les ophtalmologues vaudois étant très contents de la situation, il y a les ophtalmologues du canton du Valais qui était assez maltraité dans les hôpitaux du Valais, nous ont demandé de créer un centre pour eux.
Et c'était où?
C'était à la place de la Planta à Sion, dans les anciens locaux de l'UNIP.
Voilà. Voilà, dont on se souvient tous.
Ouais, exactement.
De l'activité. Ouais. Et comment s'est passée cette installation?
Alors, cette installation s'est très bien passée. On a construit ces centres dans un temps record. Et on a, les ophtalmologues ont d'emblée, opéré tous leurs patients chez nous. Ce qui fait que c'est un centre qui a marché extrêmement bien dès J1. Et c'était en fait notre centre qui a le mieux marché pendant une dizaine d'années, en tout cas.
Donc, quand vous dites cela a le mieux marché, c'est-à-dire que vous aviez prouvé que l'ambulatoire pouvait être rentable.
Exactement, oui. Oui, alors clairement, alors on a pu vivre de façon, de bonne façon avec l'ophtalmologie. Ensuite est venue la chirurgie de la main, est venue la chirurgie générale. Donc on avait une grosse activité et deux salles d'opération qui marchaient à plein pot en Valais. Et c'était vraiment un succès parce qu'on voyait que on pouvait vivre du Tarmed si on s'y prenait correctement.
Qu'est-ce que vous répondez à ce scepticisme qui est toujours prévalent, qui voit dans l'ambulatoire des activités non rentables, et alors que vous aviez prouvé justement que ça pouvait l'être?
Alors, j'ai toujours pensé qu'on devait déranger quelques hôpitaux et quelques cliniques, parce que personne pensait que c'était possible. On nous disait qu'on surfacturait certainement, on nous a vraiment... je dirais, on a beaucoup mis en doute notre honnêteté dans la façon de travailler, alors que plus contrôlé que nous, on ne pouvait pas, parce que les assureurs avaient tous un œil, contrôlaient chacune de nos factures, si c'était juste, donc on ne pouvait pas tricher, donc c'était pas possible. Donc, ce qui fait que on devait déranger un tout petit peu dans l'univers hospitalier. Et dans l'univers des cliniques, parce que on a pu montrer que si on avait le volume et si on travaillait de façon efficiente, on arrivait à s'en sortir avec le Tarmed sans problème.
Et vous avez fait des émules?
Avons-nous fait des émules?
Les gens devaient tout de même vous regarder en disant, oui, si alors, vous gagnez de l'argent, on veut en gagner aussi.
On a fait des émules parce que à Yverdon, ils ont construit un centre de chirurgie ambulatoire qui s'appelle Daisy, qui était en fait qui a été inspiré par nous, parce que à l'époque la direction médicale et administrative de l'hôpital était venue regarder notre centre de Rodani et nous avions fait une conférence à leur intention. Et nous trouvions très bien d'ailleurs qu'ils construisent leur centre de chirurgie ambulatoire. Par la suite, il y a Nyon qui a construit son centre de chirurgie ambulatoire. Mais ce sont des centres qui sont, si vous voulez, dont le financement est un peu biaisé, parce que ils ne vivaient pas de façon totalement indépendante de l'hôpital. Il y avait des subventionnements croisés, donc ça permettait d'effacer les pertes.
Et pourquoi est-ce qu'ils réalisaient des pertes, puisque selon votre modèle, ils auraient dû être profitables?
Le problème, c'est le volume. Si vous n'avez pas le volume, vous perdez de l'argent. Donc, il fallait par salle d'opération à peu près 1500 interventions minimum par année.
On dit souvent que finalement, les centres qui tournent, c'est simplement par une sélection du type de cas et du type de spécialité.
Alors oui, c'est possible. Hein. Je pense que nous voulions adresser, si vous voulez, ces centres devaient permettre d'opérer toutes les interventions chirurgicales qu'on pouvait ambulatoriser. Parce que si vous faites un centre de chirurgie ambulatoire d'ophtalmologie pure, eh ben c'est clair que vous allez pouvoir rentabiliser de façon bien plus facile, parce que c'est une, la chirurgie ophtalmologique est rentable, est bien payée, etc.
Mais est-ce qu'elle n'est pas surtout aussi prédictible? C'est-à-dire que vous savez la durée d'intervention,
exactement,
vous savez
oui.
ce dont vous
oui.
avez besoin,
oui.
et donc vous pouvez, entre parenthèses, l'industrialiser.
Oui, facilement.
Oui, ce qui est peut-être moins le cas où, dans des spécialités où peut-être des imprévus sont prévus qui casseraient justement la rigueur.
Alors, je pense que ça, c'est pas tout à fait exact parce que vous prenez la chirurgie de la main, elle est prévisible.
Elle est prédictible.
Ouais, tout à fait. Vous faites un tunnel carpien, c'est 15 minutes, 20 minutes.
Et c'est plutôt l'efficience du médecin qui va faire la différence.
Exactement, ouais. La majorité des chirurgies sont routinières pour la plupart des chirurgiens, donc elles sont prédictibles ou prévisibles, je ne sais pas comment on dit. Donc, vous pouvez avoir des centres dédiés à une seule chirurgie ou bien des centres dédiés à plusieurs types de chirurgie. Mais pour avoir le volume, c'est mieux de se diversifier. Si vous faites qu'une spécialité, vous dépendez de cette spécialité.
Et donc des chirurgiens.
Et des chirurgiens, donc c'est plus risqué.
C'est alors qu'intervient le grand saut avec le CHUV. Ou est-ce qu'il y a encore eu une autre clinique entre
Non, non, ça, il y a le CHUV. Oui, il y a eu une autre clinique qui est venue. C'est une clinique de chirurgie réfractive qui est alors cette fois une clinique qui n'est pas rémunérée par la LAMAL, mais qui est privée, qui est la chirurgie de la correction de la vue. Et ça, elle a été construite au-dessus du centre de chirurgie de Rodani. Donc, le partenariat public-privé qu'on a fait avec le CHUV, il a été créé en 2012. Donc, c'est le dernier de nos centres.
Donc, 8 ans après le lancement des premières cliniques.
Oui, ouais. Nous avions déjà un partenariat avec le CHUV depuis 2005, si je me souviens bien, parce qu'ils avaient énormément de retard, une liste d'attente énorme pour la chirurgie.
Et donc, ils vous envoyaient des patients.
Voilà, ils venaient opérer. Ouais.
Et donc, c'était les médecins du CHUV.
C'était les médecins du CHUV déjà qui venaient à Rodani. Une fois par semaine.
Et vous sentiez une différence? Parce qu'en fait, ils étaient plutôt habitués à une chirurgie hospitalière.
Oui, alors on ne sentait pas de différence parce que, si vous voulez, c'est surtout les médecins qui venaient opérer chez nous qui sentaient la différence. C'est-à-dire qu'ils
nous voyaient de façon positive ou?
Ah oui, ils nous voyaient de façon très positive, ouais. Ils ont opéré pendant. Jusqu'à ce que ce partenariat se réalise, ils opéraient beaucoup. Ils venaient régulièrement et il y avait 2 chirurgiens qui venaient, principalement de chirurgie viscérale, et ils opéraient une fois par semaine.
Et donc là, vous lancez, donc vous allez faire un partenariat avec une grosse institution,
oui.
habituée essentiellement à du stationnaire,
oui.
avec toutes les conséquences que vous avez décrites.
Oui.
Pourquoi l'avoir fait? Parce que vous saviez que vous alliez devoir vous frotter à des cultures qui étaient différentes.
Oui. Milan rêvait de cette situation parce qu'il était persuadé qu'il pouvait convaincre par l'exemple que l'efficience que l'on pouvait avoir une efficience dans les blocs opératoires.
Et donc le but était d'éduquer pour que ensuite le CHUV puisse avoir une efficience augmentée.
Je pense pas qu'il cherchait vraiment à éduquer, il cherchait à vouloir vu que l'efficience était excellente dans nos centres, de reprendre la gestion du bloc opératoire du CHUV.
La
gestion hospitalière. En entier.
Les 20 blocs.
Les 20 blocs, ouais. Mais c'était une vision, je dirais, un tout petit peu utopique. Moi, j'étais assez.
Mais ce qui aurait été impossible pour les raisons que vous avez dit. C'est-à-dire que là, vous vous seriez retrouvé avec du personnel CHUV.
Oui.
Habitué à. Ouais. Un mode de travail qui était assez ouais. différent de celui qui
ça, ça aurait été très très difficile. À la rupture du partenariat, on a constaté que le personnel qui était resté et qui était devenu du personnel du CHUV avait totalement modifié son comportement et avait rejoint la culture chuve.
Et que c'était pas la culture chuve qui s'était inspirée de votre culture?
Non, non, malheureusement.
Et ça, vous pensez que c'est sous la pression du monde infirmier ou des médecins qui étaient retrouvés?
Alors je pense, c'est clair, quand on a débuté, on a vu que une résistance passive de tout le personnel infirmier, parce qu'il fallait, si vous voulez, organiser que les patients du CHUV soient opérés chez nous.
Vous avez une exclusivité.
On avait l'exclusivité pour l'ambulatoire, mais on a vu que c'était extrêmement lent. Pour qu'on ait un remplissage des blocs opératoires, il a fallu attendre 2 ans, en tout cas, pour obtenir un résultat. Et pendant ces années-là, Milan et moi, et le groupe finançait les pertes.
Mais où était l'intérêt et où étaient traitées justement les personnes qui devaient profiter de chirurgie ambulatoire et qui n'étaient pas envoyées?
Ils étaient traités dans les locaux du CHUV, c'est-à-dire donc, chaque service...
Ah donc, il restait une partie ambulatoire dans le cadre du CHUV.
Bien sûr, ouais.
Mais la directive n'avait pas été de sortir tous les cas.
Mais entre donner l'ordre et que l'ordre soit exécuté, c'était compliqué.
Mais là, la résistance passive venait du milieu hospitalier ou des médecins?
Pas des médecins. Bon, un tout petit peu des médecins qui disaient « on doit traverser la rue », etc. Ça s'est vite amendé, mais c'était surtout du point de vue organisationnel de mettre les gens, si vous voulez, qui devaient être opérés de façon ambulatoire, de les diriger vers le centre. Et ça, c'était... Vraiment dans la... Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis énormément de temps.
Et pourquoi alors vous n'avez pas réussi à vous imposer?
Alors, 3 choses. La première des choses, les difficultés, j'entends, ont commencé, si vous voulez, avec la baisse de 30% de la rémunération liée à une décision du conseiller fédéral Berset de diminuer de 30% la rémunération TARMED pour les spécialités chirurgicales. Donc, si vous voulez, du jour au lendemain, avec le même volume, hein, vous passiez, on perdait 30% du chiffre d'affaires.
Mais ça, c'était valable à la fois pour...
En 2018.
C'était à la fois valable pour le CCA, mais également pour vos autres cliniques.
Partout. Pour toutes les cliniques.
Et est-ce que ça a affecté la profitabilité? Ou vous le dites, mais elle restait toujours hors de l'eau?
Là, non. Alors, c'est là que les ennuis ont commencé. C'est-à-dire qu'on avait vraiment eu des difficultés. On a décidé de rapatrier toute l'activité de Rodani à Beaumont, parce qu'il y avait encore de la place. On a créé des salles d'opération dédiées à l'ophtalmologie à Beaumont pour qu'on ait qu'un seul centre pour soutenir en fait ce partenariat principalement.
Pour garantir le volume.
Pour garantir le volume parce qu'il fallait encore augmenter davantage de volume vu qu'on avait une baisse de 30%. On a fait ça en 2018. 2019, on sortait à peine de la gonfle, ça marchait bien. Arrive le Covid et on ferme 4 mois. Et nous, on a fait, à mon avis, une erreur. On a gardé ouvert le centre de Beaumont pour qu'ils aient des blocs opérations, pour que le CHUV puisse garder des salles d'opération pour leurs urgences, parce que les 20 salles d'opération du CHUV étaient dédiées aux soins intensifs pour les patients Covid. C'est là que je pense que c'était, si vous voulez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans la mesure où les pertes étaient trop importantes.
Et la troisième raison?
C'est la rupture avec le CHUV. On a demandé, on a réussi à démontrer par notre BI qu'on subventionnait depuis le début l'activité des médecins du CHUV qui étaient en formation. Et nous demandions au CHUV un subventionnement sinon, on devait mettre clairement la clé sous le paillasson. Et le CHUV a pris peur parce qu'il ne voulait pas nous subventionner. Surtout, ils n'ont pas accepté le fait que nous puissions démontrer que les chirurgiens du CHUV étaient plus longs que les chirurgiens de ville, donc moins efficients, et que on perdait de l'argent, clairement, avec des heures supplémentaires à payer, sans arrêt, etc., parce que les températoires étaient de 40 à 50% plus longs. Et le TARMED est un tarif au temps. Si vous respectez ça, vous respectez pas le temps, vous perdez de l'argent.
Et vous n'aviez pas la possibilité de choisir ces chirurgiens et de choisir, d'accréditer les personnes suffisamment
non,
rapides pour y arriver?
Non, parce qu'en fait, dans le partenariat, le CHUV est un organe de formation, est un hôpital de formation. Donc, en fait, il était normal qu'un jeune chef de clinique vienne opérer, mette un peu plus de temps qu'un routinier de ville qui avait déjà fait 1000 tunnels carpiens. Et le jeune chirurgien en avait fait plus que 100, vous voyez.
Rétrospectivement, comment vous voyez cette aventure?
C'est une aventure qui, j'entends au début, c'est une question, il y a un petit peu quand même de déception dans la mesure où on n'a pas pu pérenniser ça alors qu'on était dans la bonne direction. Maintenant, on n'a pas eu de chance parce qu'il y a des événements qui nous ont contraints, qui nous ont pas permis de résister aux contraintes financières. Ces événements, on pouvait pas les prévoir et on n'avait pas les épaules assez larges, simplement.
Et si aujourd'hui vous deviez vous retrouver comme en 2004 sur une terrasse à Montana en train de vous dire,
je crois que
vous repartiriez.
Oui, je repartirais parce que si j'avais l'expérience de maintenant, je recommencerais, mais je ne recommencerai pas de partenariat avec l'État. C'est beaucoup trop.
Vous seriez resté sur Odagny, sur Champel,
oui,
sur Sion.
Oui, on aurait consolidé. Nous aurions digitalisé, nous aurions eu peut-être plus d'énergie pour mieux digitaliser notre savoir-faire. Ishir est pour moi la quintessence, le résumé, si vous voulez, de notre savoir-faire. Et je pense que peut-être qu'à long terme, les gens vont adopter cette façon de voir et de pratiquer la chirurgie ambulatoire à l'aide de ce. Milan n'aimait pas qu'on dise que c'est un outil, mais je pense que cet outil permettrait vraiment de faciliter la vie de ceux qui gèrent un centre de chirurgie ambulatoire.
Et donc, sur la base de l'expérience que vous avez faite, vous séparez très clairement en efficience, volume privé, et ensuite Galour dans le cas du système hospitalier.
Oui, mais c'est comme ça que ça doit être fait. Je pense que 70% des interventions chirurgicales peuvent être ambulatorisées maintenant. Mais le grand problème pour que ce ne soit pas encore fait actuellement, c'est la rémunération et notre système de rémunération des médecins. Comme vous avez trois niveaux de rémunération différentes pour la même intervention, celui de la chirurgie ambulatoire est le plus faible et le plus bas. C'est vraiment très difficile d'intéresser les médecins à ça.
Si je regarde l'expérience que vous avez acquise à travers tout l'ambulatoire, qu'est-ce que vous diriez qui est l'apprentissage principal que vous avez fait? Est-ce qu'il y a encore des révolutions à faire ou c'est de l'affinement? On voit de nombreux projets qui naissent, qui se prétendent tous révolutionnaires. Est-ce que c'est vraiment dans la révolution ou est-ce que c'est plutôt dans l'optimisation de chacune des étapes?
Je pense que c'est l'optimisation de chacune des étapes, ça c'est clair. J'entends, nous on a toujours regardé quand on voulait... On a regardé comment faisait l'aviation. L'avion arrive, les passagers sortent, il faut remplir l'avion de kérosène, il faut l'affréter avec les plateaux des repas, etc. d'un côté. Ensuite, il a un certain temps où il peut rester à l'embarquement et tous ces processus C'est un petit peu la même chose avec le patient. Le patient, il arrive, si vous voulez, à l'hôpital. Il faut le préparer, il faut l'emmener. Il y a un chemin jusqu'à la salle d'opération, à la salle de réveil. Ceci est un flux. Donc, les flux optimisés, c'est la garantie d'une bonne marche de la chirurgie. C'est-à-dire que le patient n'attende pas, soit opéré de façon optimale et puisse rentrer à la maison le soir dans de bonnes conditions. Voilà. Et c'est un flux, en fait.
Et c'est là que l'on revient à peut-être un point sur lequel Milan, avec son expérience industrielle, l'optimisation des flux, l'optimisation des coûts, on a trouvé toute sa justification.
On a discuté des heures et des heures de ça. Il a discuté avec moi, il a discuté avec un de nos amis qui était médecin anesthésiste, le docteur Chastenet, comment est-ce qu'on pouvait optimiser. Et je pense que c'est vraiment là. Parce qu'il y a tellement d'étapes où interviennent tellement de personnes différentes. Et cette optimisation des flux, comme je disais au début, elle dépend surtout de la culture d'entreprise, principalement. C'est l'éducation. Et que le personnel soit équipé, je dirais, d'un outil qui permette
de faire le suivi de chacun de ces flux.
Voilà, exactement. Ouais.
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce partage. Je vous remercie aussi d'avoir mis en lumière les apports de, à la fois de personnes qui viennent du monde industriel, du monde médical.
C'est ça.
D'avoir mis en évidence aussi les problématiques de ces partenariats publics-privés. Et en espérant que finalement chacun puisse inspirer l'autre pour que la qualité de la médecine soit toujours meilleure.
Merci en tout cas de ce moment qui m'a fait... dans ces conditions un peu difficiles actuellement de la perte de Milan, de repenser un tout petit peu à ce parcours.
Et à ce magnifique acquis.
Cet acquis, ouais, c'est vrai.
Merci beaucoup. Merci à Vincent Mertz d'avoir partagé l'aventure de MV Santé. Nous dédions ce podcast à la mémoire de Milan Vukovic, cofondateur de MV Santé.